France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le livre de chevet d'Emmanuel Robles, écrivain de la dernière génération, arrivé à maturité dans l'Algérie coloniale. Emmanuel Robles est né en 1914 à Oran, dans une famille d'origine espagnole. Il rencontre Mouloud Feraoun à l'école normale d'instituteurs, le futur auteur de L'Anniversaire. Avec Albert Camus, Emmanuel Robles fonde le Théâtre de l'Équipe en 1937. Autour d'Edmond Charlot, libraire, il participe à la vie littéraire avec d'autres futurs écrivains, Gabriel Audizio, René Jean-Clos, Max-Paul Fouché. En 1938, il publie un premier roman, L'Action. Il fonde une revue et publie Mohamed Dib, Kateb Yassine, des écrivains arabes, bilingues et qui veulent écrire en français. Il fonde la collection Méditerranée au Seuil. Après l'assassinat de Mouloud Feraoun par l'OAS en 1962, il fait paraître le journal de l'écrivain rédigé jusqu'à la veille de sa mort. Retrouvez Emmanuel Robles dans le livre de chevet de Jean-Vincent Bréchignac. Il va relire ses propres classiques, anciens et modernes, Cette nuit, Pablo Neruda, Federico Garcia Lorca et Miguel de Cervantes.
Le livre de chevet d'Emmanuel Robles.
C'était au temps de nos rencontres à Alger, Emmanuel Robles. Au temps où Edmond Charlot ne publiait pas seulement Gide, Aragon ou Bernanos, mais Max-Paul Fouché, René Jean-Clos, Pierre-Emmanuel, Jules Roy. Et vos premiers livres. Action, Travail des hommes. Puis cet ensemble de nouvelles, Nuit sur le monde, où je crois découvrir aujourd'hui dans les nuits corses une préfiguration de Montserrat. Oui, en ce temps vous aviez déjà un aspect extérieur, en concordance avec l'œuvre qui a sans doute pris son aspect le plus complet, le plus significatif, avec votre dernier ouvrage, La Croisière. Carré, robuste, au visage de Méditerranéen prêt à lutter farouchement pour défendre son goût du bonheur opposé à la certitude de la mort ou sa conception du salut possible de l'homme par un sens de la fraternité opposé aux horreurs du monde moderne. Comment ne serait-on pas sensible, Robles, à la noblesse de cette ligne continue dans votre œuvre, qui, dans quelque genre que ce soit, théâtre, roman ou récit, apporte aux hommes, sans le concours d'une métaphysique, une forme d'honneur devant la fatalité. Vous voici parvenu avec La Croisière à ce que vous désignez vous-même comme une synthèse de tout ce que vous avez écrit jusqu'à ce jour. Ce qui m'a frappé pourtant, en dehors de la substance profonde du livre qui me paraît conforme à des œuvres précédentes, comme Vésuve ou La remontée du fleuve, c'est une progression dramatique plus accomplie, plus proche peut-être d'une conception visuelle de la tragédie. Buñuel a été inspiré par Cela s'appelle l'aurore. Je souhaite qu'un réalisateur soit séduit par le destin de Georges Maurer, seul, avant de mourir, sur une épave. Mais peut-être convient-il maintenant d'aborder les raisons de notre rencontre. Je sais que vous avez des idées précises, mon cher Robles, sur les livres de chevet.
Oui, j'ai des idées très précises parce que j'ai effectivement des livres de chevet. Je suis un lecteur assidu d'un certain nombre d'auteurs, bien sûr, mais surtout j'ai la maladie incurable, le vice impuni de la lecture, et je ne peux me passer le soir, avant de me mettre au lit ou avant de m'endormir, de quelques pages de lecture. Il est évident qu'après une grande journée, si elle a été pleine de soucis ou de travail ou de préoccupations multiples, le soir, même après une détente au théâtre ou une détente à la télévision, j'ai besoin de ma dose de poison, si vous voulez, de ma dose de lecture. Je ne peux m'endormir sans quelques pages. Et il est évident qu'il y a à portée de ma main des livres qui peuvent répondre à chacun de mes états d'esprit. Si je suis très fatigué, si j'ai besoin d'un tonique avant de m'endormir et pour m'endormir de façon un peu consolée après une trop dure journée, eh bien j'ai certains auteurs, notamment des poètes. J'ai Pablo Neruda par exemple et j'ai García Lorca. Ou bien alors si, à la fin d'une journée, j'ai besoin d'appuyer tous les événements de la journée sur une réflexion avant le désert de la nuit, alors j'ai Le Quichotte qui pour moi est le livre des livres, le plus grand livre. Pour moi, j'entends bien, n'est-ce pas? C'est un livre que j'aime passionnément. Et puis, j'ai aussi L'Étranger pour soutenir la méditation dont je viens de vous parler. Et également, un autre auteur qui, pour des raisons que j'expliquerai plus tard, Hemingway, lui aussi m'apporte un certain nombre d'antidotes à la vie quotidienne. Et je crois que cet ensemble d'ouvrages que j'ai à portée de la main représente finalement ce choix différent et pourtant inscrit dans un même courant qui, chaque nuit, m'apaise et me console.
Nous commençons par la poésie, je crois, et Neruda.
Si vous voulez, on peut commencer par Pablo Neruda. Et pourquoi Pablo Neruda? Eh bien, j'ai déjà esquissé un début d'explication. Neruda est un poète chilien, vous le savez, mais il est bon d'insister sur le fait qu'il est un poète chilien. Ensuite, de dire qu'il est un grand lyrique. Mais d'abord, chilien, cela signifie un homme d'un continent tout neuf, un continent énorme, très mystérieux, avec des fleuves gigantesques, des montagnes étonnantes, parmi les plus grandes du monde, avec l'Himalaya. Également, un centre comme l'Amazone ou comme les Cordillères, des centres de paysages absolument inexplorés, absolument sauvages. Dans notre Europe, la nature est domestiquée, la nature est proche de l'homme. Dans certains continents, comme l'Afrique notamment, et l'Amérique du Sud, quoi qu'on en pense, l'Amérique du Sud avec tous ses états multiples, est encore un continent très mystérieux. Or, un homme comme Neruda, très sensible à ses paysages, à cette poésie sauvage, à cette grandeur aussi, sensible également à l'humanité complexe qu'on y trouve, c'est-à-dire ces Indiens, très différents depuis le Mexique jusqu'à la Patagonie, ces vieilles civilisations encore enfouies parfois dans la forêt vierge ou préservées encore par les hautes montagnes de la cordillère, c'est ces hommes, dis-je, avec ces paysages, composent un ensemble qui fascine, en tous les cas qui me fascine. Et par conséquent, ce livre de chevet, ce sera d'abord, à partir de Pablo Neruda, un recueil qui s'intitule El Canto General, le chant général. Pourquoi l'a-t-il appelé le chant général? Parce que, en trois gros volumes, il a chanté l'épopée américaine depuis les origines, depuis la formation du continent, depuis l'époque tellurique, jusqu'à aujourd'hui, avec les remous sociaux, tous les remous que vous connaissez, qu'on lit dans les journaux quotidiennement. Tout cela, cette grande épopée de l'Amérique en voie de formation et à travers sa nature sauvage, que l'homme s'efforce de mater, de surmonter, de domestiquer, disons. Cet effort aussi pour les hommes pour se rassembler en dépit des grandes divergences, tout cela compose un chant étonnant avec un admirable lyrisme d'un homme qui est un artiste accompli et qui, avec une langue comme l'espagnol, qui est extrêmement musicale, tire des effets qui, pour moi, sont véritablement de la très grande musique. Par exemple, je vais vous lire un extrait du Canto General. J'ai choisi un passage qui se réfère à l'Amérique du Nord. Je crois que, précisément, l'Amérique du Nord étant maintenant tout à fait d'actualité, voici ce qu'il nous en dit. Je vous en lis un petit passage en espagnol et ensuite je vous dirai la traduction qui est très difficile car c'est un auteur très riche de vocabulaire qui joue justement des mots de leur musicalité et qui utilise également un vocabulaire pris dans les dialectes indiens parfois, de sorte que sa langue est extrêmement complexe, d'une complexité si grande que pour ce texte que je vais vous lire d'abord en espagnol, eh bien quatre grands poètes, dont Aragon, s'y sont mis. Que despierte el leñador. Al oeste de Colorado River hay un sitio que amo. Acudo con todo lo que palpitando transcurre en mí, con todo lo que fui, lo que soy, lo que sostengo. Hay unas altas piedras rojas, el aire salvaje de mil manos, las hizo edificadas estructuras. El escarlata ciego subió desde el abismo y en ellas se hizo cobre, fuego y fuerza. América extendida como la piel del búfalo, aérrea y clara noche del galope, allí, hacia las alturas estrelladas, bebo tu copa de verde rocío. Ce texte a été traduit par conséquent à la fois par Georges Soria, Alice Arveler, Aragon et N.A. François, sous le titre Que s'éveille le bûcheron. À l'ouest de Colorado River, il est un lieu que j'aime. J'y accours avec tout ce qui palpitant me traverse, avec tout ce que je fus, ce que je suis, ce que je soutiens. Il y a là de hautes pierres rouges, l'air sauvage de mille mains leur a fait des structures échafaudées. L'aveugle écarlate a surgi du fond de l'abîme, et en elle s'est fait cuivre, feu et force. Amérique, étendue comme la peau du buffle, aérienne et claire, nuit de galop, là, jusqu'aux altitudes étoilées, je bois ta coupe de verte rosée. Oui, par l'aigre Arizona et le Wisconsin noueux, jusqu'au Milwaukee soulevé contre le vent et la neige ou dans les bourbiers enflammés de West Palm, non loin des pinèdes du Tacoma, dans l'épaisse odeur d'acide de tes bois, j'ai marché, roulant la terre mère, feuilles bleues, pierres des cascades, ouragans qui tremblaient comme toute la musique, fleuves qui priaient comme les monastères, canards et pommes, terres et eaux, inquiétude infinie pour connaître le blé. Là j'ai pu de ma pierre centrale livrer à l'air, yeux, oreilles, mains, afin d'ouïr livres, locomotives, neige, lutte, fabrique, tombe, végétaux, pas, et de Manhattan, la lune sur le vaisseau, le chant de la machine qui file, la cuillère de fer qui mange la terre, la perforatrice avec son coup de condor, et tout ce qui coupe, opprime, court, coup, être zéro se répétant et naissant. Ah, j'aime le petit foyer du farmer. Des mères d'hier dorment embaumant comme le sirop du tamarin, les draps repassés de frais, le feu brûle en mille foyers entourés d'oignons. Les hommes, quand ils chantent près du fleuve, ont une voix rauque comme les pierres du fond. Le tabac est issu de ses larges feuilles comme un génie du feu aborda ses foyers. Entrez dans le Missouri et regardez le fromage et la farine, les tables odorantes rouges comme des violons, l'homme cabotant l'orge, le poulain bleu à peine dressé exhale l'arôme du pain et de la luzerne. Cloche, coquelicot, forge, et dans les énormes cinémas sylvestres, l'amour ouvre sa mâchoire dans le songe né de la terre. C'est ta paix que nous aimons, non ton masque. Il n'est pas beau ton visage de guerrier. Tu es belle et large, Amérique du Nord. Tu es d'humble naissance comme une lavandière au bord de tes fleuves. Blanche, édifiée dans l'inconnu. Ta paix de rayons de miel, ta douceur. Nous aimons ton homme avec les mains rouges debout de l'Oregon. Ton enfant noir qui t'apporta la musique née dans sa province d'ivoire. Nous aimons ta ville, ta substance, ta lumière, tes machines. L'énergie de l'Ouest. Le pacifique miel de ruche et de village, le garçon géant sur le tracteur, l'avoine que tu héritas de Jefferson, la roue aux cent rumeurs qui jauge ta terrestre océanie, la fumée d'une fabrique et le baiser numéro 1000 d'une neuve colonie. Ton sang travailleur est celui que nous aimons, ta main populaire pleine d'huile. Eh bien, il y a ainsi tout au long du Canto General de Pablo Neruda, il y a ainsi des évocations multiples, pas seulement l'Amérique du Nord, qui d'ailleurs termine à peu près l'ouvrage. Il y a des évocations de la forêt vierge, des Andes, des Cordillères, des évocations des Pampas également, et des océans qui entourent le Pacifico, l'Atlantico. Il y a là des accents étonnants, de musicalité d'abord, mais de force. Vous avez peut-être senti à travers cette traduction, qui n'est qu'une traduction et donc une trahison, peut-être ce souffle, et ce souffle de lyrique, un des plus grands, je crois, que l'Amérique latine nous ait donné, avec bien sûr aussi Gabriela Mistral, sa compatriote, avec également des Mexicains comme Octavio Paz ou d'autres. Mais enfin, celui-là est pour moi celui qui contient non seulement toute l'Amérique latine, mais encore toute la musique du monde. Et c'est aussi un homme qui a chanté l'homme. Il n'a pas chanté que des paysages, il a chanté toujours l'homme au travail, et il nous donne des aperçus de ce que sont ces communautés d'Amérique latine. Et à travers la description de ces communautés, de leurs espoirs, de leurs travaux, c'est somme toute notre condition humaine, toute simple, qu'il nous expose, toujours avec des trouvailles harmonieuses, des trouvailles extrêmement riches. Et par exemple, il existe de lui un recueil, un de ses premiers recueils de poèmes, qui s'appelle « 12 canciones de amor y una canción desesperadas ». Il y a là un chant d'amour à la gloire de la femme, et je ne résiste pas au désir de vous en lire le premier. Il est traduit par Roland Simon, qui a été un des très bons traducteurs des poètes hispano-américains. Corps de femme. Corps de femme, blanche colline, cuisse blanche. L'attitude du don te rend pareil au monde. Mon corps de laboureur sauvage, de son soc, a fait jaillir le fils du profond de la terre. Je fuis seul, comme un gouffre. Les oiseaux me fuyaient, la nuit m'envahissait de toute sa puissance. Pour survivre, j'ai dû te forger comme une arme, et tu es la flèche à mon arc, tu es la pierre dans ma fronde. Mais passe l'heure de la vengeance, et je t'aime. Corps de peau et de mousse, de lait avide et ferme, ah, le vase de tes seins, ah, les yeux de l'absence, ah, rose du pubis, ah, ta voix lente et triste. Corps de femme, je persisterai dans ta grâce. Ô soif, désir illimité, chemin sans but, courants obscurs où coule une soif éternelle, et la fatigue y coule, et l'infinie douleur.
Emmanuel Robles a lu ce soir des poèmes de Pablo Neruda, Le Chant Général et Corps de Femme. Le livre de chevet d'Emmanuel Robles.
Emmanuel Robles, vous nous avez parlé de la fascination de la littérature de l'Amérique du Sud. Mais je crois que vous, ô fils d'Oran, si j'ose ainsi m'exprimer, vous l'avez d'ailleurs dit, l'Espagne quand vous étiez jeune, l'Espagne comptait pour moi comme une chaleur du sang, une ferveur de l'âme. C'est dire, je crois, tout l'attrait qu'a représenté pour vous un homme comme le poète García Lorca.
García Lorca, oui, García Lorca, je l'ai pratiqué, comme on dit, quand j'étais très jeune, car figurez-vous que la première traduction française date de bien avant la guerre, aux soins d'un poète comme Armand Guibert, qui a introduit Lorca, le tout premier, à Tunis. Les chansons gitanes étaient des poèmes extraits du Romancero Gitano. Et c'est grâce à Armand Guibert, et à travers sa première traduction française, que j'ai connu Lorca et qui, littéralement, m'a enthousiasmé. J'étais très jeune, j'avais 18 ans, et depuis, cette ferveur ne m'a jamais quitté. Bien sûr, j'aime beaucoup d'autres poètes, et Machado, et Alberti Atolaguirre, Juan Ramón Jiménez, j'en connais beaucoup. Mais celui-là m'a marqué parce que, précisément, j'étais très jeune, et je l'ai accueilli dans un moment où j'avais besoin de lui, où il me fertilisait, si je puis dire. D'ailleurs, je lui ai consacré...
un essai.
Mais c'est pour dire simplement, et bien que ce petit essai n'y ait aucun mérite, mon admiration entière pour l'œuvre de García Lorca. Eh bien, tout le monde en France connaît maintenant García Lorca. Tout le monde connaît sa courte vie, son andalousisme, son amour des gitans et sa fin tragique en juillet 1936 quand il a été fusillé au début de la guerre civile. Ce qu'il reste de lui, c'est une œuvre double, une œuvre de poète et une œuvre de dramaturge. Ce n'est pas au dramaturge que je me réfère quand je parle de livre de chevet. Dans notre premier entretien, Jean-Vincent Bréchignac, je vous ai dit que ces poètes comme Neruda et Lorca sont des compagnons un peu consolateurs à la fin d'une journée fatigante, d'une journée pleine de soucis et de préoccupations multiples. Eh bien, Neruda me donne une évocation très lyrique d'un monde qui me fascine. Eh bien, Lorca m'apporte un certain apaisement dans ses poèmes. D'abord parce que ses chansons, aussi lyriques que celles de Neruda, n'ont pas la même musicalité, si je puis dire. C'est un autre instrument. Neruda joue d'un grand orchestre symphonique et Lorca jouera de la flûte, jouera du hautbois. Il a une mélodie un peu plus intime, si vous voulez, et qui s'accorde bien certains soirs d'hiver à Paris, quand le ciel est bas, quand le ciel est gris et qu'on s'en sent l'âme un peu grise. Eh bien, il s'accorde bien avec cet état d'âme d'une part et vous apporte un rayon de soleil. Il y a justement dans Garcia Lorca ces paysages andalous que je connais, que j'aime, d'abord parce que j'ai des origines andalouses, vous le savez. Ma grand-mère et ma grand-mère maternelle étaient très précisément originaires de Grenade, me parlaient beaucoup de sa jeunesse dans Grenade, bien qu'elle eût épousé un Lyonnais, peut-être à cause de ce Lyonnais évoquait-elle davantage Grenade. Mes deux grands-pères paternels, eux, étaient originaires de Malaga. Donc c'est l'Andalousie qui domine, tempérée par Lyon, dirait notre ami, notre ami Rému. Eh bien, je vais vous lire d'abord un court poème de Garcia Lorca, de ses canciones, c'est-à-dire d'un premier recueil de sa jeunesse, simplement pour montrer ce qu'est chez lui aussi le sens de la musique des mots. D'abord, il était lui authentiquement musicien. Vous savez, il était l'élève de Manuel de Falla et il harmonisait des chansons, il jouait admirablement du piano. C'était un musicien et pour qui sait lire en espagnol à travers les mots, eh bien, il découvre un chant qui est véritablement un chant tout à fait musical. Enfin, si je pouvais citer quelques vers, comme par exemple « Noche hay que noche nochera », eh bien, ça n'a aucune signification, c'est de la musique pure, pour évoquer justement la mélancolie de la nuit. Voici « Media Luna », un autre nocturne parmi les mille et un nocturnes que nous a décrit Garcia Lorca. « Media Luna ». « La luna va por el agua, como está el cielo tranquilo, va cegando lentamente el tremblor viejo del río, mientras que una rama joven la toma por espejito. » Il dit « La lune va sur l'eau, que le ciel est tranquille. Lentement elle moissonne les vieux frissons de la rivière, pendant qu'un jeune rameau la prend pour miroir. » Je rappelle que c'est un des tout premiers poèmes de Lorca. Plus tard, évidemment, son talent s'est affermi, son souffle lui-même a pris plus d'ampleur, et tout de même, je vais vous lire une autre chanson qui a la même grâce, la même finesse, et qui s'appelle tout bonnement « Chanson ». La fillette au beau visage, la voici cueillant l'olive, le vent, ce galant de tour, l'a prise par la ceinture. Passent quatre cavaliers sur des poulains andalous, vêtus de vert et de bleu, sous leur longue cape sombre. « Viens donc à Cordoue, la belle !» La belle n'écoute pas. Passent trois toréadors à la taille bien cambrée. Leurs vêtements sont oranges et leurs épées d'argent vieux. « Viens à Séville, la belle !» La belle n'écoute pas. À l'heure où le jour se teinte de violet et se fond, entendre lueur diffuse, passe un jeune homme qui porte rose et myrte de lune. « Viens à Grenade, la belle !» Et la belle n'écoute pas. La fillette au beau visage cueille toujours ses olives, avec le bras gris du vent qui la serre par la taille. C'est dans une traduction que je trouve excellente de Mathilde Pomès, pour qui connaît l'original. Voilà un des aspects que j'aime dans Lorca, cette grâce, cette délicatesse pour parler des êtres. Mais Lorca, c'est aussi le passé arabe de l'Espagne que j'aime en lui. D'ailleurs, il est le continuateur d'une lignée de poètes arabes. Et je me suis amusé un jour, à Alger précisément, devant un parterre de jeunes étudiants algériens, à montrer la filiation entre les poètes andalous comme Alberti, Machado, Lorca et d'autres, la filiation avec les poètes arabes du royaume arabo-andalou des 11e, 12e et 13e siècles. Et ce sont très exactement les mêmes thèmes, le Guadalquivir, les belles filles au balcon de Cordoue, etc. D'ailleurs, voici traduit par votre serviteur, un charmant poème qui évoque ce passé arabe de l'Andalousie, qui s'intitule « Les trois mauresques ». Trois mauresques de belle allure allaient cueillir les olives, et elles étaient déjà cueillies à Jaén, Aïcha, Fatima, Myriam. Et elles étaient déjà cueillies, et elles s'en revenaient lasses et les couleurs perdues à Jaén, Aïcha, Fatima, Myriam. Trois mauresques si fleuries, les pommes s'en allaient cueillir. Aïcha, Fatima, Myriam, Jaén. Et je leur dis, qui êtes-vous, mesdames, voleuses de mon âme? Des chrétiennes qui étions mortes à Jaén, Aïcha, Fatima, Myriam. Il n'y a pas que le passé arabe qui a inspiré notre ami Garcia Lorca, qui se sentait profondément enraciné dans cette vieille culture, cette vieille poésie des siècles arabo-andalous. C'est aussi tout le monde gitan. Car Grenade, c'est la gitanerie du Sacromonte et Lorca adorait les gitans. Il leur a consacré plusieurs poèmes et même un recueil qui s'intitule tout bonnement « Romancero Gitano » qu'il a d'ailleurs rendu célèbre. C'est le recueil le plus connu de Lorca, le plus précieux entre tous, où il évoque la poésie des gitans de l'Albaïcine, c'est-à-dire du Sacromonte, et leur salacité, leur cruauté parfois, la beauté de leurs femmes, leur musique. Je vais vous lire, dans la traduction de Jean Prévost, « La casada infiel ». La femme infidèle, c'est un des plus célèbres, et c'est aussi la traduction la plus célèbre parmi tous les traducteurs, les innombrables et bons traducteurs, qu'a compté Garcia Lorca. La casada infiel, c'est-à-dire la femme adultère. Nous sommes dans le monde des gitans. Et c'est un gitan qui parle. Je la pris près de la rivière car je la croyais sans mari, tandis qu'elle était adultère. Ce fut la Saint-Jacques, la nuit, par rendez-vous et compromis, quand s'éteignirent les lumières et s'allumèrent les cri-cris. Au coin des dernières enceintes, je touchai ses seins endormis. Sa poitrine pour moi s'ouvrit comme des branches de jacinthe, et dans mes oreilles, l'empoi de ses jupes amidonnées crissait comme soie arrachée par 12 couteaux à la fois. Les cimes d'arbres sans lumière grandissaient au bord des chemins, et tout un horizon de chiens aboyait loin de la rivière. Quand nous avons franchi les ronces, les épines, les ajoncs, sous elles, son chignon s'enfonce et fait un trou dans le limon. Quand ma cravate fut ôtée, elle retira ses jupons, puis, quand j'ôtai mon ceinturon, quatre corsages d'affilée. Ni le nard, ni les campanules n'eurent jamais la peau si fine, ni, sous la lune, les cristaux n'ont de lueur si cristalline. Ses cuisses s'enfuyaient sous moi comme des truites effrayées, une moitié tout embrasée, l'autre moitié pleine de froid. Ah, cette nuit me vit galoper de ma plus belle chevauchée sur une pouliche nacrée, sans bride et sans étrier. Je suis homme et ne peux redire les choses qu'elle me disait. Le clair entendement m'inspire de me montrer fort circonspect. Sale de baisers et de sable, du bord de l'eau je la sortis. Les iris balançaient leurs sabres contre les brises de la nuit. Pour agir en pleine droiture, comme fait un loyal gitan, je lui fis don, en la quittant, d'un beau grand panier à couture, mais sans vouloir en être épris, parce qu'elle était adultère et se prétendait sans mari quand nous allions vers la rivière. Avec le monde des gitans, avec le monde arabe, il y a aussi le monde de la reine. Lorca était un homme qui fréquentait peu les arènes, à vrai dire, mais il fréquentait les matadors, les hommes de sang, les hommes de courage. Lui était un être extrêmement paisible, mais il était fasciné aussi par la mort, et dans toute son œuvre, il en parle, elle est toujours présente. Il semble même, on pourrait le dire, qu'il ait eu une préscience de sa mort tragique, de sa mort violente. Il parle souvent comme d'une hantise, d'une obsession de la mort violente. Et par conséquent, puisqu'il y avait en lui ce sens tragique de la vie, comme dit Unamuno, eh bien, je ne m'étonne pas qu'il ait été attiré par des gens qui risquent leur vie hebdomadairement dans les arènes pour des jeux extrêmement cruels, certes, mais qui les engagent jusqu'au plus profond de la chair. Parmi ses amis du monde tauromachique, eh bien, comptait beaucoup pour lui un matador qui n'a pas été illustre, à vrai dire, c'est lui qui l'a rendu illustre par un de ses poèmes, un grand poème, c'est Sánchez Mejías. Ignacio Sánchez Mejías n'est pas un bel monde et n'est pas une des grandes figures de la reine. Et il a eu une mort tragique parce que, au cours de sa vie, après avoir quitté les arènes, il y est revenu étant déjà alourdi par l'âge. Mais il avait besoin d'argent. C'était un homme qui aimait beaucoup la vie et qui menait grand train, qui avait des fiestas sans nombre autour de lui. Et par conséquent, ruiné, il revient à la reine avec des jambes moins souples qu'autrefois. Et un soir, il s'est fait tuer par un taureau. Lorca, qu'il aimait beaucoup et qui parfois l'appelait, ou plutôt que Sánchez Mejías appelait au cours d'une de ses orgies tauromachiques, lorsque, entouré par ses amis de la squadra, entouré par de belles filles, il y avait un zapateo, il y avait des danses sur la table, eh bien il l'appelait de Grenade à Madrid et lui faisait entendre l'appareil au ras des souliers de la danseuse, lui faisait entendre un zapateo. Lorca, extrêmement ému par cette mort qu'il avait apprise à Madrid un soir, un dimanche soir, a écrit tout spontanément, dans une nuit, un très long poème qui s'appelle « Chant funèbre pour Ignacio Sánchez Mejías », qui, à mon sens, est un des plus beaux de ses poèmes et qui contient, pour moi, tout le sens même de la tragédie d'une vie. C'est là que, véritablement, je peux parler de livre de chevet. Il y a non seulement une musicalité, mais il y a également tout notre destin qu'on peut relire à chaque détour, qu'on peut retrouver à chaque détour d'un vers. Je vais vous lire simplement un fragment. Le taureau ne te connaît pas, ni le figuier, ni les chevaux, ni les fourmis de ta maison, ni l'enfant, ni le soir déjà ne te connaissent, parce que tu es mort pour toujours. Ne te connaissent ni les lombes de la pierre, ni le satin noir où ton corps se défait, ni te connaît plus ton souvenir muet, parce que tu es mort pour toujours. Viendra l'automne avec ses buccins, ces grappes de nuages et les monts assemblés, mais nul ne voudra voir tes yeux, parce que tu es mort pour toujours. Parce que tu es mort pour toujours, comme tous les morts de la terre, comme tous les morts qu'on oublie en un monceau de chiens éteints. Je chante pour plus tard ton profil et ta grâce, la célèbre maturité de ton savoir, ton désir de la mort et le goût de sa bouche, et la tristesse au fond de ta vaillante joie. Nul ne te connaît plus, cependant je te chante. Il tardera beaucoup à naître, s'il peut naître, un Andalou si clair, si riche d'aventure. Je chante sa noblesse avec des mots qui pleurent et songe au triste vent parmi les oliviers.
Emmanuel Robles a lu ce soir des poèmes de Federico García Lorca. Le livre de chevet d'Emmanuel Robles.
Dans cette espèce de portrait de vous-même par vous-même, qu'est cette émission du livre de chevet, Emmanuel Robles, je crois que nous avons d'abord très bien fait de commencer par la poésie de langue espagnole, puis nous avons parlé de votre ferveur à l'égard de García Lorca, mais je vois dans votre bibliothèque, puisque j'ai le plaisir d'être chez vous, de nombreux ouvrages consacrés à Cervantes. Je suppose donc que Cervantes a également joué un rôle très important dans votre formation et dans votre vie.
C'est exact parce que j'ai commencé à lire Cervantes dans les éditions réservées aux adolescents, c'est-à-dire recréées à l'usage des adolescents. Et dès l'abord, ces aventures, pour simplifier qu'elles étaient à l'époque, m'avait fortement retenu et par endroits, je peux dire, enchanté. Mais lorsque j'ai pu lire le texte, lorsque j'ai pu pénétrer dans ce livre qui commence ainsi, je le lis parce que c'est toujours pour moi la même émotion, cette introduction du grand livre dit « En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme ». No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de los mesmos, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de los más finos. Pour moi, il y a une musique des mots, une chose qui pour moi est véritablement enchanteresse. C'est pourquoi, dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à collectionner, petit collectionneur, rassurez-vous, petit collectionneur, mes moyens étant toujours réduits, et les belles éditions étant rares et chères, j'ai tout de même réuni plusieurs volumes de Cervantes dans de belles éditions espagnoles, hispano-américaines aussi, dans de belles éditions françaises, et puis toute une série de traductions par les meilleurs traducteurs français, Viardot, Miomandre, Bablon, Cassou, et puis aussi toute une série d'ouvrages consacrés à Don Quichotte. Et vous savez qu'à la bibliothèque de Mexico, de la Universidad Autónoma de México, j'ai pu avoir entre les mains une bibliographie des essais consacrés au Quichotte, et rien qu'au Quichotte, je ne parle pas des autres œuvres, n'est-ce pas, par exemple des nouvelles ou du théâtre de Cervantes, simplement au Quichotte. Eh bien, le nombre d'ouvrages est si important qu'il vient loin derrière ceux consacrés à la Bible, loin derrière, mais tout de même après la Bible. Il vient le deuxième après la Bible aussi pour le nombre de traductions. Et après, me disaient les gens qui me faisaient visiter la bibliothèque, après vient Lénine et ensuite les lettres de Napoléon. Voilà les statistiques de l'université autonome. Mais tout cela loin derrière le Quichotte. En tous les cas, il est le deuxième après la Bible qui, elle, est le livre des livres. Tout ceci pour vous dire que si la Bible n'est pas, peut-être hélas, mon livre de chevet, je considère, moi, le Quichotte comme ma véritable Bible. Toute ma formation d'homme, je la dois bien sûr à beaucoup d'autres lectures et à de nombreux maîtres, c'est vrai, et aussi à la vie qui est la meilleure université. Mais je crois que j'ai puisé beaucoup de choses dans ce livre de Don Quichotte, et je vais m'efforcer d'expliquer pourquoi. D'abord, tout le monde sait ce que représente Don Quichotte. Tout le monde sait quel est le mythe créé par Cervantes. Don Quichotte est un homme qui est à la charnière entre deux mondes. D'une part, il y a ce monde médiéval qui peuplait le ciel, qui projetait certains mythes en avant de soi. Et puis, le monde moderne, avec un ciel vide. Eh bien, Don Quichotte est déjà mort tragique à cause de cette préconscience de ce monde qui se vide. D'ailleurs, si vous prenez le cas d'un Christophe Colomb, lorsque Christophe Colomb arrive aux Caraïbes, eh bien, il a déjà des structures mentales qui s'apparentent exactement à celles d'une créature de fiction telle que Don Quichotte. Car, si on lit les lettres qu'on a conservées de Cristóbal Colón, lui aussi projetait son rêve intérieur sur la réalité. Et il voyait, en débarquant à San Salvador, il voyait, lui, de grandes villes avec des mosquées, grandes ciudades con mezquitas, là où il n'y avait que des misérables cahutes d'Indiens, de petites cités lacustres très médiocres et dévorées par les maladies. Mais il dit dans ses lettres, il écrit au roi, et ce n'est pas pour tromper le roi, ce n'est pas pour mentir, il était sincère, il voyait. Il était un voyant parce qu'il projetait ce monde intérieur qui était déjà nourri de lectures, de tous les fantasmes qu'un Moyen-Âge halluciné avait accumulé en lui. Donc Quichotte, c'est cela. Et Sancho Panza, c'est l'inverse. Sancho Panza, c'est le terre-à-terre. Mais le terre-à-terre, au sens vrai du terme, je ne mets rien de péjoratif dans le terre-à-terre. Il est au ras de la terre. Et Don Quichotte, lui, veut s'en évader. Et l'autre le ramène chaque fois. Et pas seulement Sancho, mais les événements le ramènent chaque fois au ras de la terre, non pas au ras du sol, au ras de la planète. Et par là, il m'émeut beaucoup. De plus, le génie de Cervantes est tel qu'au-delà de cette grande figure qu'il a créée. Il y a des centaines d'autres figures, toutes intéressantes. Les seigneurs, les forbans, les aubergistes et les filles d'auberge, tout ce petit monde et ce grand monde, si vous voulez, tous les grands d'Espagne et les gens du peuple, nous sont recréés par un homme qui savait observer, et j'ajoute par un homme qui était extrêmement bon et qui avait beaucoup souffert. C'est toute une expérience de vie que contient Don Quichotte. Il est bon de dire qu'un homme comme Cervantes n'a jamais refusé de s'insérer dans le monde, qu'il a participé, nous dirions aujourd'hui, qu'il a été un homme engagé, pour prendre la terminologie actuelle. Oui, il a été engagé, c'est un homme de petite extraction, un hidalgo, un homme de petite noblesse, et qui s'était engagé d'abord comme soldat, puis on le sait, il y a la légende de l'épante, où il a combattu courageusement. Un homme de grand courage, puisqu'il était malade, il faut le dire, il était malade, il aurait pu se dispenser de participer au combat. Et tout fiévreux qu'il était, il est monté avec ses armes et il a reçu 3 coups d'arquebuse, dont 2 à la poitrine, et un qui lui a déchiqueté la main. Il était donc manchot, et cette blessure, cette mutilation, bien sûr, l'a handicapé pour une carrière militaire. Il était obligé d'abandonner sa carrière militaire. Et c'est quand il revenait en Espagne qu'il a été pris par des pirates barbaresques et conduit à Alger comme captif. Là encore, c'est une très grande expérience. 5 années de captivité dans les bagnes d'Alger, où sa conduite a été extraordinaire, car il a toujours cherché à s'enfuir. Il y a eu plusieurs tentatives d'évasion, toutes connues, toutes répertoriées, et toutes dans des circonstances qui prouvent sa noblesse de cœur. Et par exemple, chaque fois qu'il était repris, bien, il était battu, il était mis en cellule, et puis il risquait sa vie. Et toujours, il refusait de dénoncer ses complices. Cette attitude-là, le père Haedo et d'autres témoins de sa captivité l'ont relaté et prouvent qu'il s'agissait d'une grande âme. Par la suite, eh bien, il est revenu en Espagne sans pouvoir obtenir un emploi à hauteur de ses mérites. Il a eu de petits emplois, il a vécu misérablement, mais il avait tout de même la passion d'écrire. Il a commencé par des œuvrettes, puis des œuvres plus affirmées. Sa carrière elle-même s'est tout de même assise au point qu'il est devenu, on dirait aujourd'hui, une sorte d'écrivain professionnel, pour aboutir en 1605 chez Francisco de Robles, Librero del Rey, Nuestro Señor. Son premier éditeur, eh bien, était mon homonyme, ou je puis dire que c'est moi qui suis l'homonyme, puisque je m'appelle aussi François. Francisco de Robles a publié donc la première partie du Quichotte, et ça a été le succès européen que vous connaissez. Il y a eu d'abord toute l'Espagne, bien sûr, les éditions se sont multipliées, puis on l'a traduit en France, etc., en Allemagne, en Italie. Ce livre-là n'a jamais cessé d'être vivant dans les esprits. Et c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a cette somme d'expériences humaines absolument étonnantes, et cette manière de dominer le malheur. C'est cela aussi que je trouve tonique dans le Quichotte. C'est pourquoi il est mon livre chevet. C'est qu'aux heures noires, eh bien, il y a des pages du Quichotte qui sont véritablement un baume. Bien sûr, je vais vous lire le début, la description de ce chevalier d'aventure, ce Don Quichotte, dont le vrai nom, vous le savez, était Alonso Quijano ou Quijana. Véritablement, c'était une créature imaginaire, mais cependant, tout imaginaire qu'elle fût, elle était assez calquée sur ce que devait être un hidalgo de l'époque. Sans doute quelqu'un ou un type d'homme que Cervantes a découvert. Dans un village de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, il n'y a pas longtemps que vivait un de ces hidalgos qui ont lance au râtelier, vieille rondache, maigre à ridelle et levrier de chasse. Un pot-au-feu avec un peu plus de bœuf que de mouton, et le soir, d'ordinaire, un hachis de viande. Des œufs au lard le samedi, le vendredi des lentilles, et le dimanche, un pigeonneau en supplément venait à bout des 3/4 de son revenu. Le reste faisait les frais d'un pourpoint de bon drap, de choses de panne avec des pantoufles du même, pour les jours de fête, car les jours de semaine, il s'accommodait d'un habit de serge des plus fines. Il entretenait chez lui une gouvernante qui avait passé 40 ans, une nièce qui n'en avait pas 20, un valet, à la fois de ville et de campagne, bon à sceller le cheval, comme à manier la serpette. Notre hidalgo, frisé la cinquantaine, était de complexion robuste, peu fourni de chair, le visage sec, grand lefto et fort ami de la chasse. On prétend qu'il portait le surnom de Quijada ou Quesada. Il y a sur ce point quelques divergences entre les auteurs. Mais d'après les conjectures les plus vraisemblables, il s'appelait Kirana, peu importe. Il suffit que dans notre récit, nous ne nous écartions point de la vérité. Il faut donc savoir que notre Hidalgo, dans les moments qu'il n'avait rien à faire, ce qui lui arrivait tout au long de l'année, s'occupait à lire des livres de chevalerie d'une telle ardeur qu'il en vint à oublier presque complètement et la chasse et l'administration de ses domaines. Cette passion, cette extravagance, s'élevèrent au point qu'il vendit plusieurs arpents de terre à semer pour acheter des romans de chevalerie dont il entassa chez lui tout ce qu'il put. Parmi ces livres, aucun ne lui semblait valoir celui que composa le fameux Feliciano de Silva, car la clarté de sa prose et ses inextricables propos n'étaient que perles à ses yeux, surtout lorsqu'il arrivait aux déclarations et aux lettres d'amour, où l'on trouve fréquemment des traits de ce goût. La raison de la déraison que l'on fait à ma raison trouble de telle sorte ma raison, que c'est avec raison que je me plains de votre beauté. Ou encore, les cieux qui de votre divinité divinement vous fortifient avec les étoiles, vous font bien méritant du mérite que mérite votre grandeur. Le jugement du pauvre gentilhomme s'y usait. Il perdait le sommeil à tâcher d'y comprendre goutte et à leur tirer le sens des entrailles, ce qu'Aristote lui-même n'aurait pu faire s'il fût ressuscité tout exprès. Il s'égarait dans le compte des blessures que Don Belianis donnait au recevé, s'imaginant que par quelque excellent maître qu'il eût été pensé, il ne pouvait manquer d'avoir le visage et le corps entier couvert de cicatrices de balafre. Néanmoins, il louait dans l'auteur cette façon galante de terminer son livre par la promesse d'en finir avec cette interminable aventure, et souvent, il lui prit envie de prendre la plume et de l'achever au pied de la lettre, comme y est annoncé. Il l'aurait fait, sans aucun doute, et s'en serait même tiré à son honneur si d'autres pensées plus tenaces et de plus grandes conséquences ne l'en eussent détourné. Maintes fois, avec le curé du village, homme docte et gradué à Sigüenza, il avait discuté cette question. Quel fut le meilleur chevalier, Palmerin d'Angleterre ou Amadis de Gaulle? Même Nicolas, barbier du même pays, assurait que l'une approchait du chevalier Phébus, et que si quelqu'un pouvait lui être comparé, c'était le seul Don Galaor, frère d'Amadis de Gaulle, car celui-là était à toute épreuve, ce n'était pas un chevalier minaudier pleurnichard comme son frère, et pour le courage, il ne lui cédait pas d'une ligne. Bref, il s'enfonça si bien dans sa lecture qu'il passait ses nuits à lire du soir au matin et ses jours de l'aube au crépuscule. Tant il fit qu'à force de peu dormir et lire beaucoup, le cerveau lui sécha de manière qu'il en perdit l'esprit.
Emmanuel Robles a lu ce soir les premières pages de Don Quichotte de Cervantes. Le livre de chevet d'Emmanuel Robles.
Vous avez parlé de Cervantes, Emmanuel Robles, de sa grandeur. Et vous avez commencé également à nous lire le premier chapitre de Don Quichotte. Vous avez insisté d'ailleurs sur l'importance que Don Quichotte avait jouée sur vous-même et sur votre formation. Mais peut-être y a-t-il quand même une part de Don Quichotte dont vous pourriez nous parler ce soir, et qui est tellement importante. C'est le comique de Don Quichotte.
C'est très juste, en effet, parce que le Quichotte est pour moi un livre de sagesse et aussi un divertissement. On s'amuse avec le Quichotte, ce n'est pas un livre ennuyeux, parce que sous prétexte qu'on l'étudie dans les universités et même dans les classes secondaires, c'est un livre plein de joie, et le comique est à la fois un comique de gestes, un comique de mots, un comique de situations. Il y a toutes les variétés de rire dans Cervantes, et un rire franc. Il n'y a jamais de méchanceté, il n'y a jamais de mort d'homme dans Cervantes. On est souvent roué de coups, mais on ne meurt jamais. Il n'y a jamais de cruauté foncière. Cervantes était donc trop bon, précisément, pour même aller jusqu'à la férocité dans les caricatures. Les portraits sont toujours truculents, parfois d'une malice ou d'une ironie extrêmement poussée, mais sans jamais un fond de méchanceté. Et par exemple, puisque nous parlons de comique, vous allez trouver ici, dans le passage que je vais vous lire, un comique de situation, un comique de mots, qui, je crois, justifiera le choix que j'ai fait de Don Quichotte comme livre de chevet. Nous sommes dans une auberge. Don Quichotte est arrivé avec Sancho après une mésaventure dont ils sont sortis tous les deux roués de coups. Ils vont passer la nuit dans cette auberge et Don Quichotte soutient qu'il se trouve non pas dans une vulgaire auberge, mais bel et bien dans un palais. C'est toujours cette fameuse projection dont je vous ai entretenu précédemment. Il y a aussi, je dois le dire avant ma lecture, une servante qui s'appelle Marie Thorne dans cette auberge et elle est asturienne. Elle avait d'abord pensé Don Quichotte, puis Sancho. Or, nous dit Cervantes, le muletier avait comploté avec elle que cette nuit-là, ils prendraient ensemble leurs ébats. Elle lui avait donné sa parole qu'aussitôt que les autres se seraient assoupis et ses maîtres endormis, elle irait le trouver pour satisfaire son désir en tout ce qu'il lui commanderait. Et l'on raconte de cette bonne fille que jamais elle ne donna semblable parole sans la tenir, l'eût-elle donnée au fond d'un bois et sans aucun témoin, car elle se piquait fort d'être hidalga et ne tenait pas à déshonneur son service de servante d'auberge, disant que des malheurs, de fâcheuses circonstances, l'avaient jetée dans cet état. Le lit dur, étroit, mesquin et traître, sur lequel reposait Don Quichotte, se trouvait le premier au milieu de ce galetas étoilé. Auprès de lui, Sancho fit le sien, avec une simple natte de jonc et une couverture qui semblait plutôt de toile d'Anjou que de laine. À ces deux lits succédait celui du muletier, fabriqué, comme on l'a dit, avec des bâts et tout l'attirail de ses deux meilleurs mulets. Et il en menait 12, gras, luisants, fameux, car c'était un des riches muletiers d'Arrevalo, à ce que dit l'auteur de cette histoire, lequel fait dudit muletier mention particulière parce qu'il le connaissait très bien. Et il en assure même qu'il était quelque peu son parent. Ajoutons que Cide Hamed Ben Angeli fut un historien très soigneux et très ponctuel en toutes choses, ce que prouve assez celle qu'il a rapportée jusqu'à présent, puisque, si commune et mesquine qu'elle soit, il n'a pas voulu les passer sous silence. Nous pourrons prendre exemple les historiens graves qui nous rapportent les faits d'une façon si courte et si succincte qu'à peine le goût nous en vient aux lèvres et qui laissent dans l'encrier, par négligence, ignorance ou malice, le plus substantiel de l'ouvrage. Loué soit mille fois l'auteur de Tablante de Ricamonte et celui de cet autre livre qui rapporte Ephéségèse du comte Tormillas. Avec quelle exactitude tout est décrit par eux. Je dis donc que le muletier, après avoir visité ses bêtes et leur avoir donné leur seconde ration, s'étendit sur ses harnais et se mit à attendre sa ponctuelle Marie Thorne. Sancho pensa, était déjà graissé et couché, mais quoiqu'il s'efforçât de dormir, la douleur de ses côtes n'y consentait point. Et quant à Don Quichotte, avec la douleur des siennes, il avait les yeux ouverts comme un lièvre. Toute l'hôtellerie était dans le silence. Et il n'y avait dans la maison entière d'autre lumière que celle que donnait une lampe qui brûlait suspendue au milieu du portail. Cette merveilleuse tranquillité et les pensées que tirait sans cesse notre chevalier du souvenir des événements qui se lisent à chaque pas dans les livres, auteur de sa disgrâce, lui firent naître en l'imagination l'une des plus étranges folies que l'on puisse bonnement imaginer. Il se crut être arrivé à un fameux château, puisque toutes les hôtelleries où il logeait étaient autant de châteaux à ses yeux, et que la fille de l'hôtelier était la fille du châtelain, laquelle, vaincue par sa gentillesse, s'était éprise d'amour pour lui et s'était promis de venir cette nuit, à l'insu de ses parents, coucher avec lui un bon moment. Prenant toute cette chimère qu'il avait fabriquée pour réelle et véritable, il commença à se troubler, à penser à l'imminent péril où allait se trouver sa vertu. Mais il résolut au fond de son cœur de ne commettre aucune déloyauté envers sa dame Dulcinée du Toboso, quand bien même la reine Geneviève, assistée de sa dame Quintagnone, se présenterait devant lui. Comme il continuait de rêver à ses extravagances, arriva le temps et l'heure qui fut pour lui funeste, où devait venir l'asturienne. Celle-ci, en chemise et pieds nus, les cheveux retenus dans une coiffe de futaine, se glissa à pas muets dans l'appartement où logeaient les trois autres à la quête de son muletier. Mais à peine fut-elle à la porte que Don Quichotte l'entendit, et s'asseyant sur son lit en dépit de ses emplâtres et de l'humal que lui faisaient ses côtes, il étendit les bras pour recevoir sa belle damoiselle. L'asturienne, qui, toute ramassée et ne pipant mot, allait les mains en avant, cherchant à tâtons son amie, vint donner dans les bras de Don Quichotte, qui la saisit fortement par un poignet, la tirant vers lui sans qu'elle osât rien dire, la fit asseoir sur son lit. Il tâta sa chemise, qui lui sembla, bien qu'elle fût de toile de sac, du lin le plus fin. Elle portait au bras des bracelets de verre qui lui parurent avoir le reflet de précieuses perles orientales. Ses cheveux, qui tiraient un peu sur le crin, il les prit pour des tresses d'or luisant d'Arabie, dont l'éclat obscurcissait celui du soleil. Et son haleine, qui fleurait assurément la viande froide et la salade de la veille, lui parut répandre une odeur suave et aromatique. Enfin, il la peignit dans son imagination avec la même mine et le même aspect que cette autre princesse qui, ainsi qu'il l'avait lu dans ses livres, était venue visiter de nuit le chevalier blessé, vaincu par son amour pour lui, avec tous les ornements dont se part ce récit. Tel était l'aveuglement du pauvre Hidalgo, que ni le toucher, ni l'haleine, ni certaines autres choses qui distinguaient la pauvre fille, lesquelles auraient pourtant fait vomir tout autre comme Ultier, ne put le détromper. Au contraire, il croyait serrer dans ses bras la déesse de la beauté, et l'étreignant avec force, il lui dit tendrement à voix basse: « Combien je voudrais, ô tes belles dames, être en mesure de payer une grâce aussi signalée que vous m'avez faite par la vue de votre grande beauté. Mais la fortune, qui ne se lasse pas de persécuter les braves, a voulu me mettre ce lit où je gis si brisé et mortifié que si même de mon plein gré j'eusse eu le désir de correspondre à votre volonté, cela m'eût été impossible, tant plus qu'à cette impossibilité s'en ajoute une plus grande. C'est la foi que j'ai promise et donnée à la sans pareille Dulcinée du Toboso, unique dame de mes plus secrètes pensées. Si cela n'y faisait point obstacle, je ne serais pas un assez niais chevalier pour laisser passer l'heureuse occasion que m'offre votre infinie bonté. » Marie Thorne suait d'angoisse de se voir saisie si fortement par Don Quichotte, et ne prétendant attention aux propos qu'il lui tenait, sans piper mot, elle s'efforçait de se dégager. Le bon muletier, que tenait éveillé ses mauvais désirs, avait aussi entendu sa garce dès qu'elle avait passé la porte. Il écouta attentivement tout ce que disait Don Quichotte, et, jaloux de ce que l'Asturien lui manquait de parole pour une autre, il s'approcha davantage du lit du Quichotte et se tint quoi pour voir ou aboutir ses propos qu'il ne pouvait comprendre. Mais quand il vit que la pauvre se débattait pour se dépêtrer, tandis que Don Quichotte s'efforçait de la retenir, la farce lui parut mauvaise. Il leva le bras en l'air en y déchargea un si terrible coup de poing sur les étroites mâchoires de l'amoureux chevalier qu'il lui mit la bouche tout en sang. Et non content de cette vengeance, il lui monta sur les côtes, et un peu plus vite que le trois coups de pied, il les parcourut haut en bas. Le lit, qui était un peu faible et de fondement peu solide, ne pouvant supporter la surcharge du muletier, s'effondra sous le plancher. À ce fracas, l'hôtelier s'éveilla, et bientôt il s'imagina que ce devait être quelque tour de Marie Thorne, quoiqu'il l'appela à tue-tête et qu'elle ne répondait pas. Avec ce soupçon, il se leva, alluma un flambeau, s'avança du côté d'où venait le tapage. La servante, entendant venir son maître, qui était de caractère terrible, toute troublée pantoise, se réfugia dans le lit de Sancho Panza, qui dormait encore, si blotti, recroquevillé comme une pelote. L'hôtelier entra en disant: « Où es-tu ? Car à coup sûr, sont ici de tes tours. » En ce moment, Sancho s'éveilla, et sentant cette masse quasi sur lui, il crut qu'il avait le cauchemar. Il se mit donc à allonger de droite et de gauche des coups de poing, dont je ne sais combien atteignirent celle-ci. Marie Thorne, excitée par la douleur et en voyant Pète toute retenue, rendit à Sancho la monnaie de sa pièce et si dru qu'à son dépit, elle acheva de l'éveiller. Sancho, se voyant traiter ainsi, sans savoir par qui, se releva du mieux qu'il put, prenant Marie Thorne à bras le corps. Ils commencèrent entre eux la plus acharnée et la plus gracieuse escarmouche du monde. Cependant, le muletier, voyant à la lueur du flambeau la mauvaise passe où se trouvait sa dame, quittant Don Quichotte, accourut lui porter le secours dont elle avait besoin. L'hôtelier fit la même chose, mais avec une intention différente, car il voulait châtier l'Asturienne, croyant bien qu'elle est l'unique cause de cette harmonie. Et comme on dit, le chat au rat, le rat à la corde au bâton, le muletier tapait sur Sancho, Sancho sur la fille sur Sancho, et l'autre sur la fille. Et tous les quatre faisaient si vite qu'ils ne se donnaient pas un instant de répit. Le bon, c'est que le flambeau de l'hôtelier s'éteignit, et se trouvant tout à coup dans les ténèbres, ils se cognaient si impitoyablement à tort et à travers, que partout où portaient leurs mains, ils mettaient tout à mal. Il se trouva que par hasard, logit cette nuit-là dans l'hôtellerie un sergent de ceux que l'on appelle de la vieille Sainte Armanda de Tolède. Quand il entendit l'étrange vacarme de la bataille, il empoigna sa demi-vierge et la boîte de fer-blanc qui contenait ses titres, puis entrant à tâtons dans la pièce où se livrait le combat, il s'écria « Arrêtez ! Au nom de la justice, arrêtez au nom de la Sainte Armanda !» Le premier qu'il rencontra sous sa main fut Don Quichotte, martelé de coups de poing, qui était encore sur son lit démantelé, étendu la bouche en l'air et sans connaissance. Le sergent le saisit au hasard par la barbe, le cessant de crier « Main forte à la justice !» Et voyant que celui qu'il tenait ne bougeait ni ne remuait, il s'imagina qu'il était mort et que les autres étaient ses meurtriers. Et dans cette idée, il haussa encore la voix et s'écria « Qu'on ferme la porte d'hôtellerie, qu'on ait soin que personne s'échappe. On vient de tuer un homme ici. » Ce cri effraya tous les combattants. Chacun d'eux laissa la bataille au point où l'avait trouvé la voix du sergent. L'hôtelier se retira dans sa chambre, la servante dans son taudis, le muletier sur son tas de harnais. Les deux malheureux, Don Quichotte et Sancho, furent les seuls qui ne purent bouger de place. Le sergent, lâchant enfin la barbe de Don Quichotte, sortit pour aller chercher de la lumière et revenir arrêter les délinquants. Mais il ne trouva pas de feu. L'hôtelier, ayant exprès éteint la lampe du portail, en se retirant chez lui. Il fut donc obligé de recourir à la cheminée, où ce ne fut donc qu'à force de patience et de temps qu'il trouva moyen de rallumer une autre lampe. Voilà un ton comique, une scène qui est menée avec, véritablement, vous l'avez senti, je pense, malgré ma mauvaise lecture, un mouvement endiablé, un sens du comique qui me paraît véritablement très moliéresque avant la lettre.
Emmanuel Robles a lu ce soir un extrait de Don Quichotte de Cervantes. Le livre de chevet d'Emmanuel Robles.
Restons ce soir avec Don Quichotte et Manuel Robles et ne nous en plaignons absolument pas. Mais je crois que la soirée sera consacrée aux intermèdes, en quelque sorte, qu'il y a dans le Don Quichotte. Et nous irons en particulier à Alger.
C'est exact. Il y a dans Don Quichotte, bien sûr, qui est un livre de haute sagesse et un livre fortement comique, il y a également un ensemble de récits, d'intermèdes, de textes subsidiaires, si vous voulez, dont certains sont pleins de saveurs à mes yeux, et tout particulièrement, vous avez eu raison de le noter, bien sûr, le récit, le long récit du captif, qui m'enchante toujours parce que il est très bien conduit, ce récit, mais aussi, il est fortement autobiographique. À ce compte-là, on trouve une image de Cervantes assez fidèle, un Cervantes généreux, audacieux, amoureux, et tous ces aspects-là ne cessent de m'enchanter. Il y a dans le captif parfois des tableautins qui représentent l'Alger du temps des pirates, l'Alger barbaresque, et cela aussi concourt à me faire aimer ce double chapitre. Je vais vous lire la deuxième partie, le moment où Cervantes, c'est-à-dire son captif, son héros, mais enfin l'acte est tout de même imité d'un événement réel, s'apprête à s'évader d'Alger avec une jeune femme qui l'enlève. Il nous dit donc « Je m'abouchai avec 12 Espagnols, tous vigoureux rameurs et de ceux qui pouvaient le plus librement sortir de la ville. Ce n'était pas une petite affaire que d'en trouver autant à cette époque, car 20 bâtiments étaient en course et l'on avait amené tous les hommes de Chiourme. Je ne trouvais ceci que parce que leur maître était resté tout cet été sans se mettre en course, occupé à terminer une galiote qui était sur le chantier. Je ne leur dis rien d'autre chose, sinon que le premier vendredi, dans l'après-midi, ils sortissent secrètement, un à un, pour se rendre au jardin d'Agi Morato, où ils attendraient ma venue. Je donnais à chacun cet avis en particulier, avec l'ordre, s'ils voyaient là d'autres chrétiens, de leur dire seulement que je leur avais commandé de m'attendre en cet endroit. Cette besogne faite, il m'en restait une autre, et qui me convenait bien davantage. C'était d'informer Zoraïde de l'état où se trouvaient nos affaires pour qu'elle fût avertie et sur le qui-vive, et qu'elle ne s'effrayât point si nous l'enlevions à l'improviste avant le temps où elle s'imaginait que devait revenir la barque des chrétiens. Je résolus donc d'aller au jardin et de voir si je pourrais lui parler. Sous prétexte d'aller cueillir quelques herbes, j'y fus la veille de mon départ, et la première personne que je rencontrai fut son père. Celui-ci s'adressa à moi, dans cette langue qu'on parle entre captifs et morts dans toute la Berbérie, et même à Constantinople, qui n'est ni l'arabe, ni le castillan, ni la langue d'aucune nation, mais un mélange de toutes les langues avec lesquelles tout le monde se comprend. Il me demanda donc en ce jargon qui j'étais et ce que je cherchais dans son jardin. Je lui répondis que j'étais esclave d'Arnaut Mami, et cela parce que je savais de façon certaine que c'était un de ses plus grands amis et que je cherchais des herbes de toutes sortes pour faire une salade. Il me demanda ensuite si j'étais ou non un homme de rachat et combien mon maître exigeait pour ma rançon. Pendant que s'échangeaient questions et réponses, la belle Zoraïde sortit de la maison du jardin. Il y avait déjà longtemps qu'elle m'avait vu, et comme les mauresques, ainsi que je l'ai dit, ne font aucune façon de se montrer aux chrétiens et ne cherchent pas davantage à les éviter, elle ne se fit pas faute de venir où nous nous trouvions, son père et moi. D'ailleurs, la voyant s'avancer à pas lents, son père l'appela et lui dit d'approcher. Ce serait chose impossible que de vous dire à présent la beauté et la grâce, les galants et riches atours, avec quoi ma chère Zoraïde se montra à mes yeux. Je dirais seulement que plus de perles pendaient à son cou ravissant, à ses oreilles, à ses cheveux, qu'elle n'avait de cheveux sur la tête. À ses chevilles, qui étaient découvertes à la mode du pays, elle portait deux carcars, et c'est ainsi qu'on appelle en arabe les anneaux ou bracelets des pieds. Ils étaient d'or pur, avec tant de diamants incrustés que son père, à ce qu'elle m'a dit depuis, les estimait 10 000 doublons, et les bracelets qu'elle portait au poignet en valaient autant. Les perles étaient très fines et très nombreuses, car le plus brave ajustement des femmes mauresques consiste à se couvrir de perles rondes ou baroques. Aussi y a-t-il plus de perles chez les morts que chez toutes les autres nations. Le père de Zoraïde avait la réputation d'en posséder un grand nombre et des plus belles. Il passait aussi pour posséder plus de 200 000 écus espagnols, et c'est de tout cela qu'était maîtresse celle qui est à présent la mienne. Si elle se montrait belle avec tous ses ornements, on pourra s'en faire idée par les restes que lui ont laissé tant de fatigue et juger de ce qu'elle devait être en ces temps de prospérité. On sait que la beauté de certaines femmes a ses jours et ses saisons, que les accidents de leur vie la diminuent ou l'augmentent, et qu'il est naturel que les passions de l'âme l'élèvent ou la baissent, bien que d'ordinaire elles la flétrissent. Enfin, elle se montra parée et belle à l'extrême, du moins c'est ainsi qu'elle apparut à mes yeux, qui n'avait jamais contemplé une telle perfection. Et joignant à cela combien je lui étais obligé, je crus avoir devant moi une divinité du ciel descendue sur la terre pour mon plaisir et mon salut. Dès qu'elle s'approcha, son père lui dit dans sa langue que j'étais esclave de son ami Arnaut Mami et que je venais chercher une salade. Elle prit alors la parole et, dans ce jargon dont je vous ai parlé, elle me demanda si j'étais gentilhomme et pourquoi je ne m'étais pas encore racheté. Je lui répondis que je venais de l'être et qu'elle pouvait voir, par le prix de ma rançon, combien mon maître m'estimait, puisque j'avais dû payer 1500 zoltani. « En vérité, dit-elle, si tu avais appartenu à mon père, j'aurais fait en sorte qu'il ne te donnât pas pour deux fois autant. Car vous autres chrétiens, vous mentez en tout ce que vous dites, et vous faites pauvre pour tromper les morts. » « Cela peut bien être, madame, répondis-je, mais je vous assure que j'ai dit à mon maître la vérité, que je la dis et la dirai à toutes les personnes qui se trouvent dans ce monde. »« Et quand t'en vas-tu ? » demanda Zoraïde. « Demain, à ce que je crois, lui dis-je, car il y a ici un vaisseau de France qui met demain à la voile, et je pense partir avec lui. »« Ne vaudrait-il pas mieux, répliqua Zoraïde, attendre qu'il arrivât des vaisseaux d'Espagne pour t'en aller avec eux, plutôt qu'avec des Français qui ne sont pas vos amis ?» « Non, répondis-je, si toutefois il est vrai, comme en court la nouvelle, qu'un vaisseau arrive d'Espagne, je me déciderai à attendre, mais il est plus sûr de m'en aller dès demain, car le désir que j'ai de me voir à mon pays auprès des personnes que j'aime est si fort qu'il ne me laissera pas attendre une autre occasion pour peu qu'elle tarde, même si elle devait être meilleure. « Tu dois sans doute être marié dans ton pays, » demanda Zoraïde. « Et c'est pour cela que tu désires aller revoir ta femme ?»« Non, répondis-je, je ne suis pas marié. » Mais j'ai donné ma parole de me marier en arrivant. Et elle est belle, cette dame, à qui tu l'as donnée ? Demanda Zoraïde. Si belle, répliquai-je, que pour la louer dignement et te dire la vérité, elle te ressemble beaucoup. À ces mots, le père de Zoraïde se mit à rire de bon cœur et me dit : Par Allah, chrétien, elle doit être bien belle, en effet, si elle ressemble à ma fille, qui est la plus belle de tout ce royaume. Si tu en doutes, regarde-la bien, et tu verras que je te dis la vérité. C'était le père de Zoraïde qui nous servait d'interprète dans le cours de cet entretien comme plus habile à parler, car, bien que Zoraïde parlât cette langue bâtarde qui, comme je l'ai dit, est là-bas en usage, elle exprimait son intention plutôt par des signes que par des mots. Tandis que nous devisions ainsi, un mort accourut, disant à grands cris que 4 Turcs avaient sauté par-dessus les murs du jardin et qu'ils cueillaient les fruits qui n'étaient pas mûrs encore. Le vieillard aussitôt sursauta, sa fille aussi, car les morts ont une peur générale et comme instinctive des Turcs, surtout des soldats, qui sont si insolents et exercent un tel empire sur les morts leurs sujets qu'ils les traitent plus mal que s'ils étaient leurs esclaves. Agi Morato dit aussitôt à Zoraïde, « Fille, retourne vite à la maison, enferme-toi, pendant que je vais parler à ces chiens. Toi, chrétien, cherche tes herbes à la bonne heure et qu'Allah te ramène heureusement à ton pays. » Je m'inclinai et il alla à la recherche des Turcs, me laissant seul avec Zoraïde qui fit d'abord mine d'aller où son père lui avait dit. Mais dès qu'il y disparut derrière les arbres du jardin, elle revint auprès de moi et me dit les yeux pleins de larmes, « Tamichi, chrétien, Tamichi, ce qui veut dire « tu t'en vas, chrétien, tu t'en vas ».« Oui, madame, » lui répondis-je, « mais d'aucune façon sans toi. » Attends-moi le premier Jema et ne t'effraie pas de nous voir, car sans aucun doute, nous t'amènerons au pays de chrétiens. Je lui dis ce peu de mots de façon qu'elle comprit, tous les propos que nous échangeâmes. Alors, jetant un bras autour de mon cou, elle commença à pas défaillant à s'acheminer vers la maison. Le sort voulut, et ce pouvait être pour notre perte, si le ciel n'en eût ordonné autrement, que tandis que nous marchions dans l'attitude que je viens de vous dire, son bras passé à mon cou, son père, qui revenait déjà de chasser les Turcs, nous vit dans cette posture, et nous vîmes aussi qu'il nous avait aperçus. Mais Zoraïde, adroite et avisée, ne voulut pas ôter son bras de mon cou. Au contraire, elle s'approcha plus près encore et posa sa tête sur ma poitrine en pliant un peu les genoux, et donna des signes évidents qu'elle perdait connaissance. De mon côté, je feignis de la soutenir contre mon gré. Son père vint en courant à notre rencontre, et voyant sa fille en cet état, il lui demanda ce qu'elle avait, mais comme elle ne répondait pas, il s'écria « Sans doute qu'elle se sera évanouie de l'effroi que lui a donné l'arrivée de ses chiens. » Alors, l'ôtant de dessus ma poitrine, il la pressa contre la sienne. Elle jeta un soupir, et les yeux encore mouillés de larmes, reprit « Ametchi, chrétien, Ametchi, c'est-à-dire « Va-t'en, chrétien, va-t'en. » À quoi son père répondit « Peu importe, fille, que le chrétien s'en aille, car il ne t'a point fait de mal, et les Turcs sont partis. N'aie pas peur, il n'y a plus rien qui puisse te causer de peine. » Les Turcs, je te l'ai dit, sont partis à ma prière et sont allés par où ils étaient venus. Ce sont eux, Seigneur, dis-je à son père, qui l'ont effrayé. Mais puisqu'elle veut que je m'en aille, je désire ne pas la chagriner. Reste en paix, et avec ta permission, je reviendrai au besoin cueillir des herbes dans le jardin. Car, à ce qu'a dit mon maître, on n'en saurait trouver nulle part ailleurs de meilleur pour la salade. Tu pourras revenir toutes les fois qu'il te plaira, répondit Agi Morato. Ma fille ne dit pas cela parce que ta vue ou celle des autres chrétiens la fâche. Elle voulait dire que les Turcs s'en allassent, comme elle t'a dit de t'en aller, ou bien elle a pensé qu'il était temps pour toi de chercher tes herbes. » À ces mots, je pris sur le champ congé de tous les deux, et Zoraïde, comme si à chaque pas on lui arrachait l'âme, s'éloigna avec son père. Moi, sous prétexte de chercher des herbes, je parcouris à mon aise tout le jardin. Je remarquai bien les entrées et les sorties, le point fort de la maison, les commodités qui se pouvaient offrir pour le succès de notre entreprise. Cela fait, je revins, rendit compte de tout ce qui s'était passé aux renégats et à mes compagnons, savourant d'avance l'heure où je me verrai en paisible jouissance du bonheur que m'offrait le ciel dans la belle Zoraïde. Enfin, le temps s'écoula et amena le jour et le terme par nous si désirés. Nous suivîmes tous l'ordre arrêté de concert après mûres délibérations et réflexions, et le succès répondit à notre espoir. Le vendredi qui suivit le jour où j'avais entretenu Zoraïde dans le jardin, le renégat vint, à l'entrée de la nuit, jeter l'ancre de sa barque presque en face du lieu où se trouvait la ravissante Zoraïde. Déjà les chrétiens, qui devaient ramer, étaient avertis et cachés dans divers endroits des environs. Ils étaient tous en alerte, pleins de joie, dans l'attente de mon arrivée, et impatients d'attaquer le navire qu'ils avaient devant les yeux, car, ne sachant point la convention faite avec le renégat, ils croyaient que c'était à force de bras qu'il leur fallait conquérir la liberté, en ôtant la vie aux morts qui occupaient la barque. Il arriva donc à peine, je me fus montré avec mes compagnons. Tous les autres qui étaient cachés, en nous voyant arriver, accoururent auprès de nous. C'était l'heure où les portes de la ville venaient d'être fermées et personne n'apparaissait dans toute cette campagne. Quand nous fûmes réunis, nous demandâmes s'il valait mieux aller d'abord chercher Zoraïde ou, avant tout, faire prisonnier les morts bagarins qui ramaient dans la barque. Pendant que nous balancions ainsi, arriva notre renégat qui nous demanda à quoi nous perdions le temps, ajoutant que l'heure était venue et qu'aucun de ses morts n'était sur ses gardes et que la plupart dormaient. Nous lui dîmes ce qui causait notre hésitation, mais il nous répondit que ce qui importait le plus, c'était d'abord de s'emparer du vaisseau, ce qui pouvait se faire en toute facilité sans nul danger, puis qu'ensuite nous pourrions nous mettre en quête de Zoraïde. Cela nous parut bon à tous, et sans tarder davantage, guidés par lui, nous arrivâmes au navire. La suite, je vous l'ai dit, je la résume. Eh bien, le captif peut s'enfuir, entraîner la belle Zoraïde, le père aussi, le père qui mourra en chemin, et ils débarqueront dans l'Espagne où ils s'épouseront. Et c'est là qu'ils rencontreront, avant les épousailles, Don Quichotte, à qui, en une veillée, ils conteront leur belle aventure d'amour.
Emmanuel Robles a lu ce soir un extrait de Don Quichotte de Cervantes. Le livre de chevet. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de production, Janine Antoine.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois du 22 au 26 avril 1968.